The assembly will now.
L'assemblée va à présent entendre une allocution de Son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Je prie le protocole d'accompagner Son Altesse.
On behalf of the gen-
Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de saluer aux Nations Unies Son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, et de l'inviter à prendre la parole.
بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيس الجمعيات العامة للأمم المتحدة
Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Votre Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, d'emblée, j'aimerais féliciter Son Excellence M. John Ash à l'occasion de son élection à la présidence de la 68e session de l'Assemblée Générale et je lui souhaite plein succès dans sa mission. J'aimerais aussi remercier Son Excellence M. Vukirimich, le président de la 67e session, pour les efforts qu'il a déployés afin d'assurer le succès de celle-ci. Je souhaite aussi saluer les efforts déployés par Son Excellence le secrétaire général M. Ban Ki-moon, visant à renforcer le rôle des Nations Unies. Monsieur le Président, la communauté internationale est face à de nombreux problèmes liés à la paix et à la sécurité, en plus des défis aux efforts visant à résoudre les différends par voie pacifique. Ceci nécessite un renforcement des capacités des Nations Unies afin de traiter ces défis et ces problèmes. Les populations des différentes régions dans le monde attendent que les institutions de la communauté internationale s'efforcent de trouver des solutions aux questions de la pauvreté, de la faim et du développement durable, en allant au-delà de la convocation de conférences et de l'adoption de résolutions, et même au-delà de l'attention collective nécessaire et des campagnes qui sont nécessaires, quelle que soit leur importance. La région arabe connaît de nombreux événements, de nombreux changements qui s'accélèrent et qui ont une importance historique. Récemment, elle a été le témoin d'événements tels que suite au mouvement de ces populations et leur entrée dans le domaine politique public. L'impasse caractérise toujours le conflit arabo-israélien, qui est au front des questions qui menacent la paix et la sécurité internationale. Ceci est le résultat de l'occupation qu'Israël continue d'infliger et les injustices qu'Israël continue d'infliger au peuple palestinien, ainsi que l'échec dans la recherche d'une paix juste et durable selon les résolutions juridiques internationales. L'occupation israélienne continue des territoires palestiniens et arabes avec ses pratiques qui en résultent. La modification des conditions démographiques, en particulier en étendant la portée des activités de colonisation, la judéisation de la ville de Jérusalem, l'embargo injuste de la bande de Gaza, en plus de l'intensification des colonisations dans le Golan syrien occupé, et la modification du statu quo ne peuvent être considérés comme normaux. Ceci est dû au fait qu'ils représentent des violations flagrantes du droit international et des pactes internationaux, mais aussi parce que la cause palestinienne est une question juste et l'injustice historique infligée contre le peuple palestinien doit cesser. Les organisations de la communauté internationale ont été établies sur la base du respect du droit d'autodétermination après les guerres mondiales. Il est insensé qu'ils ne puissent rien faire quant à la dernière question coloniale de notre monde. Israël doit savoir que la coercition et les politiques de facto n'apportent pas la paix. il est erroné d'établir un État qui voit la paix par la soumission d'autres peuples et le déni de leurs droits et qui en fait une priorité sur la paix. En fait, il n'y a pas de sécurité sans paix. Une paix réelle vient de la coexistence entre les peuples sur la base du bon voisinage, du respect mutuel et de la prise en compte des intérêts de chacun. La paix que nous recherchons est la paix basée sur la dignité, la justice et les principes de l'égalité internationale telles que les résolutions de l'ONU et l'initiative arabe pour la paix en vertu du principe de la solution à deux États et du retrait d'Israël de tous les territoires arabes occupés. En fait, l'expérience des différentes nations et des peuples confirme que les colonies injustes ne perdurent pas, elles ne sont que des prétextes de nouveaux conflits. Les politiques de facto qui continuent d'être appliquées en Palestine ne feront pas disparaître le problème. En fait, ce problème se transforme sous nos yeux en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Car les activités de colonisation mènent à la destruction de la base qui permettra d'établir un État palestinien, alors que la situation actuelle ressemble de plus en plus à un apartheid sous la domination d'un État ou même au sein d'un État. Et ceci entraînera de nouveaux conflits, étant donné qu'aucun peuple n'acceptera l'injustice et n'acceptera de garder le silence. Le droit national inaliénable du peuple palestinien d'établir leur État indépendant avec Jérusalem en tant que capitale, en respectant les limites des frontières de 1967 et le droit à assurer le retour des réfugiés palestiniens, sont non seulement une aspiration arabe, elles représentent aussi la norme internationale mettant à l'épreuve la crédibilité de la légitimité internationale qui ne devrait pas être divisible. De même que la communauté internationale a appliqué les principes de la légitimité internationale pour les crises passées dans le monde, nous devrions appliquer les mêmes principes pour toutes les questions. Par conséquent, nous appelons le Conseil de sécurité à assumer sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationale et d'adopter les décisions nécessaires pour mettre fin aux pratiques israéliennes illégitimes. Monsieur le Président, la destruction et les massacres innommables, ainsi que la politique de la terre brûlée et la destruction des villes continuent d'être commis par le régime syrien contre son peuple, ce qui franchit toutes les limites établies par la morale et la loi, en particulier après l'utilisation par le régime d'armes chimiques contre le peuple syrien. Il est malheureux que les auteurs de ces crimes brutaux et de ces massacres qui ont choqué toutes les consciences humaines, jouissent de l'impunité face à leurs responsabilités. Ceci remet en cause la crédibilité des droits humains et des mécanismes de légitimité internationale de la communauté internationale. La question n'est pas de savoir si la Syrie possède des armes chimiques, car elle serait en conflit avec un autre État qui aurait des armes chimiques, biologiques, même nucléaires. Mais la question est l'utilisation de ces armes par le régime contre son propre peuple. Le peuple syrien ne s'est pas élevé pour placer les armes chimiques sous la supervision internationale. Il s'est élevé pour se débarrasser du despotisme et de la corruption et pour mettre fin à la justice auquel il était confronté. Nous savons tous que la responsabilité de l'échec d'imposer la solution politique que nous préférions tous pour la Syrie est due principalement à l'inaptitude du Conseil de sécurité à prendre les décisions nécessaires pour mettre fin au bain de sang et à l'intransigeance continue du régime syrien et son refus et son rejet de toute initiative régionale internationale. Par conséquent, le processus de décision au Conseil de sécurité doit changer, étant donné qu'il manque d'objectivité et d'équité. Il est aussi devenu un obstacle majeur à la préservation de la paix et de la sécurité internationale et à la poursuite aux poursuites des criminels de guerre et des auteurs de crimes contre l'humanité. Par conséquent, nous réaffirmons l'importance d'accélérer le processus de réforme complète du Conseil de sécurité afin qu'il soit plus à même de traiter objectivement les défis mondiaux et de réagir aux aspirations du peuple. Ceci ne sera pas à réaliser tant qu'il n'y aura pas une représentation équitable de la communauté internationale dans le Conseil, et seulement lorsque celui-ci pourra exprimer la démocratie et le multilatéralisme international. Il est bien sûr impossible de prendre une décision sans l'appui de la majorité des États membres permanents, mais prendre une décision ne devrait pas être le monopole d'un ou deux États. Je saisis cette occasion d'appeler nos frères syriens à resserrer les rangs pour entrer dans une période de transition qui mènera à l'établissement d'un système de gouvernance pouvant garantir la liberté et la dignité de tous les Syriens sans discrimination sexiste, nationale, sectaire ou confessionnelle. Ces nombreux martyrs ne sont pas tombés, ces nombreux sacrifices n'ont pas été faits par ce grand peuple pour que le despotisme soit échangé, soit remplacé par le chaos ou un autre type de despotisme. Les révolutions du printemps arabe, au cours desquelles le peuple arabe s'est soulevé pour appeler à la liberté, à la dignité, à la justice sociale, sont face à des difficultés qui semblent les entraîner à faire machine arrière. Face à ces difficultés, en fait, ces difficultés étaient à escompter. Mais ce qui est étrange, c'est que certains politiciens ne parviennent pas à éviter des problèmes, même escomptés. Toute personne qui connaît la réalité des questions qui se posent dans la région arabe et leur contexte historique découvre que ces révolutions viennent d'un processus historique à long terme qui est connu que les peuples européens ont que les peuples européens, américains, asiatiques et africains ont connu auparavant. La transformation vers un régime juste et l'accession aux demandes des peuples dans tous les États du monde n'a jamais été facile. C'était une voie de sacrifice. Il n'a pas été facile de le traverser sans impatience et détermination. C'est pour cela que les peuples sages préfèrent que les changements de régime passent par des réformes graduelles et pas par des révolutions. Et nous ne devrions pas nous précipiter vers des conclusions hâtives quant à l'avenir des révolutions arabes. Ceci est une nécessité historique à long terme. Il est clair que dans le monde arabe, les choses ne feront pas machine arrière et que le peuple arabe est devenu conscient de ses droits et s'implique dans les activités publiques. L'État du Qatar a toujours voulu être une partie active et efficace en jouant un rôle constructif au niveau international par ses relations équilibré sur le plan économique et politique au niveau bilatéral et multilatéral. Nous continuerons de promouvoir cette approche afin que l'État du Qatar puisse maintenir ses responsabilités et ses engagements au niveau national, régional et international. L'État du Qatar espère être un centre de dialogue et de discussion parmi les différentes parties au conflit et ne pas être partie lui-même à ces conflits. Nous visons aussi à ouvrir des possibilités de dialogue culturel et informatif entre les peuples. Dans ce contexte, le processus de réforme et de modernité lancé par le Qatar, qui a fait de notre État un État d'institution, un État qui interagit positivement avec la communauté internationale, n'a pas été possible sans un engagement réel pour l'état de droit et les principes de la gouvernance, la lutte contre la corruption, la protection des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que l'autonomisation des femmes pour participer à la vie publique sur un pied d'égalité avec les hommes et créer un environnement sain pour les enfants. En outre, l'attention aux préoccupations de la jeunesse et à la création d'un environnement éducatif approprié pour assurer l'utilisation maximale de leurs capacités a toujours figuré parmi les priorités de notre politique nationale. La prolifération des armes de destruction massive au Moyen-Orient, en particulier les armes nucléaires, reste une question alarmante. Dans ce contexte, j'affirme la position du Qatar, à savoir que chaque État dans la région a un droit absolu à l'utilisation, à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, selon les normes et les procédures de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous attendons avec intérêt la convocation de la conférence d'Helsinki en tant qu'étape qui contribuerait aux efforts déployés pour faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive. La question du changement climatique est toujours au centre de nos préoccupations, et ce avec toutes les ramifications qu'elle a sur le système mondial dans son ensemble. Nous aimerions confirmer l'engagement de l'État du Qatar à continuer de coopérer avec la communauté internationale pour faire face à ce défi et mettre en œuvre les mesures convenues au cours de la 18e conférence des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a été accueilli par le Qatar à la fin de l'an dernier, afin de développer une feuille de route pour lutter contre les conséquences négatives sur le plan environnemental et sur le plan économique de ce phénomène dangereux. Il convient de mentionner ici que l'État du Qatar a beaucoup progressé dans la mise en œuvre de l'initiative de l'Alliance des terres mondiale asséchée qui a été lancée pour établir une organisation internationale afin de lutter contre ce phénomène. Cette organisation proposée complétera les travaux d'autres organisations internationales pour lutter contre la désertification et la sécheresse et pour préserver l'environnement sans qu'il y ait de doublons entre ces organisations. Et je vous appelle à appuyer cette initiative. L'État du Qatar participe en tant que partenaire efficace dans les efforts visant sur le développement durable au niveau international et nous sommes engagés à allouer le pourcentage requis de notre PIB pour les pays les moins avancés. En plus de l'assistance humanitaire et de secours que nous apportons dans les cas d'urgence et de catastrophe. Dans ce contexte, l'État du Qatar a en fait réalisé la grande majorité des objectifs de développement du millénaire et Nous œuvrons à la réalisation de tous ces objectifs avant 2015, comme le démontrent les rapports régionaux et des Nations Unies dans ce domaine. Merci et que la paix soit avec vous.